Élément essentiel de la philosophie naturelle aux côtés de l'eau, la terre et le vent, le feu tient une place à part et sa symbolique se construit tout en dualité. Destructeur et inquiétant quand il n'est pas contrôlé, réconfortant et salvateur lorsqu'il permet de se réchauffer, le feu est autant l'habit du diable que la lumière qui permet de se repérer dans l'obscurité. Dans les affaires paranormales, c'est son caractère biblique qui est le plus souvent mobilisé. Et quand les flammes de l'enfer viennent se frotter à la peau des mortels, les brûlures laissent des traces indélébiles.
Je suis Mathias.
Je suis Charles.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Feu qui venait de l'intérieur. En mai 1977, le corps sans vie d'une sexagénaire, Ginette Kazmierczak, est retrouvé en partie calciné dans un appartement du RUF. L'intégralité du tronc, une bonne partie du visage et le bras gauche ont brûlé. Mais le bras droit et les jambes, y compris les collants, semblent totalement intacts. Que s'est-il passé? S'agirait-il d'un phénomène de combustion spontanée? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir. Cette très étrange affaire, c'est sans doute une des plus étranges que nous ayons traitées, je pense, dans le Bureau des Mystères. Elle s'est passée il y a 43 ans en Meurthe-et-Moselle, plus précisément à Uruf, un petit village situé à une quarantaine de kilomètres de Nancy. Et quand je dis petit village, je n'exagère pas. Seulement 2% de cette commune, entourée de bois, est urbanisée. Il y a à peine plus de 400 habitants aujourd'hui. En 1977, au moment de l'affaire, il y en avait environ 300. Avant la combustion de Ginette Kazmierczak, le village du Ruf était surtout tristement connu comme étant le théâtre de l'affaire Guy Desnoyers, qui était en fait le seul fait divers marquant qui s'était passé à Uruf, qui en dehors de ça était un village relativement tranquille. Nous allons en venir à l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, la combustion de Ginette Kazmierczak. Le 12 mai 1977, donc, entre 4h et 5h du matin, suivant les versions, une habitante du RUF est en train de se préparer pour aller au travail. Cette femme, employée aux verreries de Vannes-le-Châtel, est soudainement troublée par une odeur de fumée qui vient de chez son voisin de palier, l'instituteur du village. En s'approchant de la porte, elle entend des crépitements. Elle prend son téléphone et alerte les pompiers qui arrivent rapidement sur les lieux. Aujourd'hui retraité, le lieutenant-colonel André Laurin s'est souvenu de ce terrible événement pour l'Est républicain. Voici son témoignage. Le standard téléphonique du 18 reçoit un appel pour feu dans le village du Ruf. À leur arrivée, les secours découvrent le corps d'une femme de 65 ans, affreusement mutilée par le feu. La victime repose dans le vestibule. Les jambes recouvertes d'une paire de collants, qui n'ont pas fondu, et le bras droit sont intacts. Le reste est en cendres. Ce corps en partie calciné, c'est celui de Ginette Kazmierczak, la mère de l'instituteur du Ruf. Lui n'est pas sur place. La veille, comme bien d'autres nuits auparavant, il a dormi chez sa fiancée. L'enquête montrera que la dernière personne à avoir vu Ginette vivante était un jeune homme ayant toqué à la porte de l'appartement la veille, aux alentours de 19h30. Venu pour voir son fils, il ne s'était pas éternisé. Seule Ginette était présente. Elle avait, je cite, « le visage livide et indéfinissable ». À l'évidence, quelque chose n'allait pas en cette soirée du 11 mai 1977. Comme l'a expliqué André Laurin à l'Est républicain, cette sexagénaire avait un quotidien très organisé. Je le cite à nouveau. Selon son fils, chaque soir, vers 20h, sa mère suivait le même rituel. Elle faisait sa toilette, enfilait une chemise de nuit, dînait et regardait la télé avant d'aller se coucher. Mais cette nuit-là, le programme n'a pas été respecté. En inspectant l'appartement, les enquêteurs découvrent la chemise de nuit encore pliée sur le lit. Et Ginette ne l'a de toute évidence pas mise. Puis en jetant un œil à la poubelle, ils retrouvent une robe marron en bon état. André Laurin l'assure, personne ne sait ce qui a pu chambouler ses habitudes. Si ce mystère-là reste à ce jour entier, c'est surtout l'état du corps qui s'est retrouvé au cœur de toutes les discussions. Selon André Laurin, il y a de nombreux éléments troublants dans cette affaire. En premier lieu, le fait que les éléments autour de la dépouille de Ginette soient presque tous intacts. Seul le parquet en chêne était détruit sous la partie calcinée du corps. En revanche, le parquet était absolument intact sous les jambes et le bras droit, non touché. André Lorrain le détaille, la démarcation était nette, parfaite. Contrairement à ce qui se passerait dans un incendie classique, il n'y a donc pas eu de propagation, ce qui peut sembler particulièrement étonnant compte tenu de la puissance du feu. Selon le médecin légiste chargé de l'affaire, il faudrait 2 heures, avec une température avoisinant les 3000 degrés, pour que le corps se retrouve dans cet état. Reste également une grande interrogation, comment le feu s'est-il déclaré ? André Lorrain explique que pour qu'il y ait combustion, il faut 3 éléments. Un combustible, qui est ici le corps, de l'oxygène, qui était donc présent dans l'appartement, et une énergie de démarrage. En l'occurrence, les enquêteurs n'ont pas trouvé cette énergie. Désigné comme expert par le tribunal de Nancy, André Lorrain a conclu à une combustion inexpliquée. Un terme qu'il préfère à celui de combustion spontanée, qui est très populaire chez les amateurs de surnaturel. La combustion spontanée, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un terme qui désigne ces situations où un corps est retrouvé en partie calciné dans un environnement intact. On suspecte alors que ces personnes ont pris feu subitement de l'intérieur, soit par un phénomène naturel encore inexpliqué, ou alors, dans certains cas, comme le disent certains, par une combustion due à une intervention surnaturelle. L'affaire du Ruf est souvent citée comme un exemple de cas de combustion spontanée, mais ce n'est pas le seul. Un des premiers remonte à 1731, près de Vérone, en Italie. Dans une étude de l'historien Giuseppe Bianchini, écrite justement cette année-là, donc un document contemporain, on apprend que la comtesse Cornelia Zangheri Bandi serait morte dans des circonstances particulièrement étranges. Après un repas du soir assez lourd, la comtesse de 66 ans était allée se coucher. Le lendemain matin, en ouvrant la porte de la chambre, une des servantes a découvert une scène affreuse. Au centre de la pièce, couverte de suie, au pied du lit, se trouvait le corps à moitié calciné de Cornelia Bandi. Le bas de ses jambes, en dessous de ses genoux, avait résisté. Même chose pour une partie de son crâne et 3 doigts, eux aussi épargnés par les flammes. Le lit et les meubles étaient intacts, mais couverts d'une substance graisseuse et odorante. Au sol, parmi les cendres, se trouvait une lampe à huile vide. On peut évidemment se dire qu'un accident s'est produit avec la lampe à huile dans la nuit, surtout quand on sait que la comtesse avait la réputation d'abuser de l'alcool et qu'elle se massait parfois avec du brandy. Dans ces conditions, il suffit effectivement d'une étincelle pour que tout s'enflamme. Mais la vraie question est plutôt, pourquoi le feu ne s'est-il pas propagé ? Pourquoi les meubles, et surtout ses jambes, n'ont pas entièrement brûlé ? Ces questions se sont posées à de multiples reprises dans d'autres cas similaires. En 1951, par exemple, une sexagénaire du nom de Mary Reaser a été retrouvée morte en Californie. Le cas a été examiné par des experts et des agents du FBI, mais aucune explication n'a été trouvée. Même chose en septembre 1967, à Londres, lorsqu'un pompier a découvert un sans-abri en train de brûler au niveau de l'abdomen. Idem, encore en 1980, lorsqu'une Anglaise a soudainement pris feu dans une discothèque de Darlington. Le cas de Ginette Casmiersac est donc loin d'être isolé, et s'inscrit dans tout un historique de combustion dite spontanée, qui continue encore aujourd'hui. Mais ces cas font toujours débat, surtout chez les médecins et dans le domaine scientifique. Le terme de combustion spontanée est généralement rejeté par les spécialistes qui assurent qu'il n'y a rien de spontané dans un départ de feu. Le professeur Gérald Quatrom, responsable du laboratoire de médecine légale et d'anthropologie médico-légale de l'université de Nice, a écrit un article scientifique sur le sujet. En septembre 2011, dans le Journal of Forensic Science, il s'est intéressé au phénomène d'autocombustion. Il a d'abord noté un point commun chez les victimes. Âgées de 44 à 74 ans, ce sont majoritairement des femmes, et elles sont généralement fumeuses, alcooliques ou les deux. Une caractéristique qui peut déjà expliquer certains départs de feu. Il suffit qu'une étincelle touche une trace d'alcool sur un vêtement ou qu'une personne s'endorme avec une cigarette allumée pour qu'elle s'embrase. Mais selon André Lorrain, ce ne serait pas le cas pour Ginette Casmiersac. Le lieutenant-colonel a cherché toutes les sources possibles. Il les a énumérées dans un article de l'Est Républicain. Et je préfère te prévenir, Charles, tu ne vas pas apprécier ces déclarations.
Ok, je me prépare.
Je vais le citer. Certes, la victime se chauffait au fioul domestique, et on a retrouvé sur une petite partie du plafond et sur le haut des cloisons des résidus de ce qui s'apparentait à la combustion d'hydrocarbures gras. On a cru qu'il pouvait y avoir un lien. Mais les analyses scientifiques effectuées par chromatographie n'ont rien donné. Les résidus gras provenaient donc du corps humain. Nous savions aussi que la victime faisait de la psychose obsessionnelle qui lui faisait croire qu'elle avait des puces. Elle avait donc l'habitude de s'asperger avec une bombe aérosol que nous avons retrouvée à proximité. Mais là encore, malgré des expériences faites sur des lapins, on débouche sur une carbonisation. Pas une calcination. Ouais, alors l'expérience sur les lapins, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ce qu'on va retenir là-dedans, c'est que quand même la personne avait l'habitude de s'asperger avec une bombe à aérosol, qui a de plus été retrouvée à proximité. C'est peut-être un indice.
Si peu.
En gros, en fait, ce que dit André Laurin, pour expliquer brièvement, parce que je vais pas rentrer dans les détails que moi-même je ne comprends pas spécialement hein, sur ces cas-là, on est vraiment sur des trucs pointus, la différence entre carbonisation et calcination, mais en gros, ce que dit André Laurin, c'est que le corps n'a pas été entièrement carbonisé, et que ça aurait dû être le cas si une bombe à aérosol avait causé le feu. Voilà, c'est l'idée du truc. Dans ce cas-là, en fait, le feu aurait été si puissant que les flammes auraient dû se propager dans tout l'appartement. Ce qui n'a pas été le cas. Il y a donc officiellement aujourd'hui pas d'explication à la combustion de Ginette Casmiersac. Mais j'ai peut-être une piste. Dans un article sur la combustion spontanée paru en 2012, Le Monde expliquait qu'une cigarette pouvait brûler intégralement en même temps que le corps, et donc ne laisser aucune trace. Pareil avec une allumette. Alors forcément, je me demande si ce qui a fait démarrer le feu n'a pas tout simplement été réduit en cendres. Ce serait donc plutôt logique qu'on ne l'ait pas retrouvé. Ce qui interroge davantage, c'est le fait que la victime ait brûlé sans réagir. Et là encore, le professeur Gérald Quatrom a quelques explications. En analysant une douzaine de cas, il a précisé que le processus d'autocombustion démarrait la plupart du temps après le décès. Les personnes qui brûlent sont mortes quelques instants auparavant d'une crise cardiaque, d'une crise d'épilepsie ou d'un AVC. Mais ce processus d'autocombustion peut, plus rarement, comme le dit Quatrom, démarrer alors que la personne est toujours vivante. Dans ce cas, on peut logiquement se demander pourquoi elle ne cherche pas à éteindre les flammes, à se rouler au sol, ou enfin, faire quelque chose. Selon Gérald Quatrom, beaucoup de facteurs peuvent expliquer ça. À commencer par un possible état d'inconscience, lié à l'inhalation des fumées toxiques ou à un coma éthylique. Mais certaines victimes peuvent être conscientes et ne pas pouvoir bouger quand même. Je cite à nouveau Gérald Quatrom, « Un handicap ou une alcoolémie élevée empêche la personne de fuir, d'appeler les secours ou d'éteindre le feu. » Pour le cas précis de Ginette Casmiersac, on ne sait pas si elle était vivante ou non lorsque la combustion a commencé. Un des points les plus troublants dans ces affaires de combustion dites spontanées, c'est le fait que les extrémités soient souvent préservées. J'ai cherché à comprendre pourquoi les bras et les jambes restaient parfois intacts. Il y a une explication qui est possible, qui est largement soutenue chez les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, ce serait que la combustion se fasse par ce qu'on appelle un effet de mèche. Le docteur Christian Palmière du Centre universitaire roman de médecine légale à Genève a expliqué le principe très simplement. Et ça tombe bien, puisque je n'y comprends souvent pas grand-chose. Je vais le citer, tu vas voir, c'est très clair. Tout se passe comme si le corps brûlait comme une bougie. La graisse humaine étant la cire, tandis que les vêtements enflammés et imbibés de graisse servent de mèche. Ayant pris feu, les vêtements brûlent la peau, qui, une fois carbonisée, se fissure. La graisse sous-cutanée s'écoule alors, entamant un long processus de combustion. Elle ne brûle que lorsque sa température atteint au moins 250 degrés. Fin de citation. Le processus de combustion dure plusieurs heures, ce qui expliquerait l'état du corps, qui est souvent calciné aux deux tiers. L'effet de mèche explique aussi pourquoi le torse est la zone la plus touchée. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est dans cette partie du corps que l'on trouve la plus grande quantité de graisse, donc de combustible. A partir de là, le feu s'étend, puis s'éteint ensuite progressivement. Les extrémités sont donc touchées moins violemment, voire pas du tout, ce qui rejoint beaucoup de cas qu'on a vus précédemment. Ce processus-là, il explique beaucoup de choses. Les fortes odeurs de graisse qu'on retrouve dès l'histoire de la comtesse Cornelia Zangheribandi, et puis la plupart des affaires de combustion dites spontanées ont ce détail-là. Notamment dans celle du ruf, où une substance grasse a été retrouvée sur les murs et sur les plafonds noircis de l'appartement. En fait, c'est tout simple, une fois qu'il n'y a plus assez de graisse, la combustion s'arrête. Comme le résumait Le Monde dans son article, je cite « La combustion humaine ne frappe pas au hasard et surtout n'a rien de spontané. En revanche, c'est l'extinction de la combustion qui survient de manière spontanée. » Si la graisse humaine fond à 250 degrés, les os ont quant à eux besoin d'une température de près de 3000 degrés pour brûler. Et les corps retrouvés ont bien une partie de leurs os totalement calcinée. Là encore, l'effet de mèche peut l'expliquer. Un article de la revue scientifique Science and Justice, qui est paru en 1999, explique que la combustion peut atteindre, dans certaines zones, et avec la bonne quantité de combustible, ces températures-là. Pour prouver qu'un corps humain, os compris, peut effectivement brûler comme une bougie, le docteur John DeHaan, du California Criminalistic Institute, a mené une petite expérience. Il a enveloppé un porc mort dans une couverture, et a versé un peu d'essence sur cette couverture, puis a mis le feu. Les os ont fini par brûler, au bout de 5 heures de combustion continue. Dans l'article de Science and Justice, John DeHaan et deux de ses camarades scientifiques expliquent que la masse graisseuse d'un porc est très similaire à celle d'un être humain. Selon eux, je les cite, « L'effet sur le porc est donc exactement le même que celui qu'on attribue à la combustion humaine spontanée. » Cela conclut les recherches qui ont été faites sur le sujet. Et c'est pour ça que moi, en ayant eu toutes ces données, c'est vrai que les combustions humaines spontanées, ça me fascinait un peu au début. Je me disais, mais comment c'est possible que quelqu'un prenne subitement feu ? Bon, aujourd'hui, à la lumière de tout ça, je comprends mieux. Il n'y a pas de combustion humaine spontanée, selon moi. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent les scientifiques. Pour eux, ça n'existe pas. Il faut toujours qu'il y ait une source de chaleur, une étincelle, une cigarette allumée, ou une réaction chimique aussi, pour faire partir un feu.
Il suffira d'une étincelle.
Exactement.
J'ai envie de la placer depuis le début. J'ai envie de... Je me retiens.
Hommage à Johnny Hallyday qui voulait allumer le feu. Là, en l'occurrence, pour le cas de Ginette Kersmiersak, le fait qu'elle ait les extrémités intactes, ça s'explique par cet effet de mèche. Par contre, c'est vrai que sur ce cas précis, et c'est là que vient en partie le mystère, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comment le feu a démarré. En tout cas, ça n'a certainement pas pris de l'intérieur. La lumière des éléments qu'on a, ça ne vient pas de l'intérieur. Contrairement à l'idée générale qu'on peut se faire d'une combustion spontanée où les organes se mettent à brûler et puis la personne devient une torche humaine. Les visions d'artistes de la combustion humaine spontanée, par exemple, c'est pas le cas là. Là, visiblement, ça vient forcément de l'extérieur. En revanche, le phénomène de la combustion humaine spontanée est globalement, je trouve, fascinant. Moi, ce qui me trouble, c'est que le corps brûle sans propagation de feu, quoi. Comment le feu fait pour atteindre des températures qui sont très élevées, 3000 degrés, sans détruire tout ce qu'il y a autour ? Pourquoi est-ce qu'il ne se propage pas au plancher, au rideau ? Franchement, après mes recherches, je ne sais toujours pas. J'ai visionné des expériences justement sur un porc pour voir comment ça fait. Et au début, ça fonctionne. Et en fait, au bout d'un moment, le feu finit quand même par se propager. Parce qu'en fait, la graisse coule ailleurs et elle touche d'autres éléments, par exemple du mobilier.
D'accord.
Et ça enflamme ce qu'il y a autour. Donc l'expérience malheureusement de John Dehan pour Science and Justice n'a pas été filmée, voilà. Mais donc on peut se baser sur leur dire, parce que ce sont des scientifiques qui ont fait une expérience dans des conditions contrôlées. Donc si eux disent que c'est possible, je vais les croire évidemment. J'ai en revanche pas pu le voir de mes propres yeux que ça fonctionnait. Mais leur étude est tout à fait sérieuse.
Ça me faisait penser à cette autre affaire dont j'ai oublié le nom, dont on avait déjà parlé dans le bureau des mystères, où des enfants d'une famille avaient été enlevés. Enfin, on supposait qu'ils avaient été enlevés, la maison avait pris feu, et on se demandait, tout le mystère résidait dans la question de savoir s'ils avaient été enlevés ou s'ils avaient péri dans les flammes de la maison. On n'avait retrouvé aucun os de ces enfants dont j'ai oublié le nom de famille.
Les enfants Sodeur.
Les enfants Sodeur. Exactement.
Tu l'avais raconté dans le bureau des mystères de Noël, puisque cette triste affaire se passait une nuit de Noël.
Tout à fait. Et du coup, les enfants Sodeur, on se demandait s'ils avaient été enlevés ou s'ils avaient péri dans les flammes. Et à ce moment-là, je m'étais posé la question de à partir de quelle température et pour combien de temps il faudrait pour que des os disparaissent entièrement. Et oui, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant, d'autant plus que ça dépend évidemment beaucoup de l'environnement et du contexte. C'est peut-être pour ça que toutes les combustions spontanées ne se ressemblent pas tout à fait non plus. Et on peut aussi se demander si... parce que tu parlais d'une expérience pratiquée sur un porc, on peut se demander si la masse graisseuse de cette personne était peut-être plus faible que la moyenne, ou plus faible ou plus élevée, et que du coup ça peut contribuer ou pas à ce que le feu se propage, par exemple.
Il faut voir la différence. Je crois qu'il y avait un détail qui expliquait que dans la plupart des cas, les personnes avaient des problèmes de santé, parfois liés à de l'obésité, donc peut-être que du coup, plus de graisse fait plus de combustible à ce moment-là. Je tiens à préciser quelque chose quand même, c'est que moi, mon avis sur la question, c'est que les choses peuvent s'expliquer par l'effet de mèche, mais ça ne fait pas encore totalement consensus. Je préfère être clair là-dessus. On ne sait toujours pas avec certitude, par exemple, comment la graisse sort du corps pour s'enflammer. Je vais citer le professeur Quatrom, qui sinon m'a beaucoup aidé dans ses citations pour cet épisode. Il dit « Il est encore difficile d'expliquer comment se produit l'ouverture cutanée par laquelle s'écoule la graisse humaine. Selon lui, il faudrait encore expérimenter et poursuivre les recherches pour le savoir, mais il y a tellement peu de cas que ça en vaut peut-être pas la peine en fait. » C'est aussi ce qui met à mal l'idée selon laquelle ce serait un véritable phénomène, la combustion humaine spontanée. Il y a trop peu de cas. Ça pourrait être tout simplement des accidents qui se ressemblent, en fait. Je vais citer Benjamin Radford du magazine Skeptical Inquirer, qu'on aime bien ici, ce magazine donc sceptique, qui a tendance à souvent démonter les théories paranormales. Il déclarait en 1987 « Si la combustion humaine spontanée était un vrai phénomène, et pas le résultat d'une personne âgée ou infirme qui se trouverait trop près d'une source de flamme, pourquoi n'y en a-t-il pas plus souvent ? Il y a 5 milliards de personnes dans le monde, en 1987, et pourtant... On ne voit pas de personnes qui s'enflamment en marchant dans la rue, en assistant à un match de football ou en prenant un café à Starbucks. Et effectivement, en fait,
c'est toujours des personnes isolées.
Toujours des personnes isolées, dans des circonstances qu'on qualifiera de mystérieuses, parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Sauf qu'il y a sûrement des explications qui ne sont pas forcément toujours les mêmes suivant les cas. C'est pour ça que moi j'ai voulu m'attarder sur le cas précis de Ginette Kersmersak et élargir un petit peu autour. Mais sur son cas précis, en l'occurrence, je pense que le fait qu'elle s'asperge généreusement de bombes aérosols a pu jouer un rôle, très clairement,
on
dans
peut
le départ
imaginer,
de feu.
oui.
C'est en tout cas mon opinion. André Laurin, lui, qui a vraiment enquêté sur le sujet, donc on l'a dit, pour le tribunal de Nancy, mais qui n'a jamais lâché l'affaire, il donne régulièrement des interviews dans l'Est républicain où il dit où il en est. Donc lui ne sait toujours pas, n'a toujours pas trouvé de solution à cette affaire. Et voilà, après, est-ce qu'on arrive dans ce cas-là où on a tellement enquêté longtemps sur une affaire qu'on n'arrive plus à trouver de nouvelles pistes et qu'on s'embourbe dans ces informations? C'est malheureusement parfois le cas. On le voit dans des grandes affaires criminelles où au bout d'un moment, on n'arrive plus à y voir clair tellement il y a d'informations à digérer, quoi.
Bah,
pour
je
moi,
pense...
Ginette Kersi...
Ouais,
c'est ce que j'ai... T'allais me demander si on classait l'affaire, j'imagine.
Bah ouais, on peut sans doute pas la classer, c'est ça qui est...
Non, bah non, c'est ça, parce qu'on connaît pas avec certitude ce qui a pu démarrer le feu, en fait. Et on a surtout pas vraiment enquêté sur son comportement qu'on pourrait qualifier d'étrange de la veille, en tout cas inhabituel. Est-ce qu'elle était tourmentée par quelque chose? Est-ce qu'elle aurait pu s'immoler elle-même? L'affaire n'a vraiment toujours pas livré tous ses secrets 43 ans après. Par contre, je suis pas d'accord avec les conclusions finales d'André Laurin. Voilà, il a enquêté quand même pendant plus de 20 ans après l'affaire, il a très bien travaillé le dossier, il l'a conservé après sa retraite pour y jeter un œil de temps en temps. Mais en 2012, il a eu une déclaration dans l'Est républicain que je trouve plutôt gênante, je vais te la dire. « Je suis obligé de m'en remettre au surnaturel. Les scientifiques disent que la ficelle est un peu grosse, mais qu'ils apportent alors une explication rationnelle. » Et en fait, j'ai la sensation que des explications rationnelles, on en a quand même donné plusieurs, quoi. Donc André Laurin a en partie raison, il n'y a pas d'explication totale sur ce qui est arrivé à Ginette Kersmersak.
Il n'y a pas d'explication unique.
Voilà, l'explication unique et globale sur ce cas précis, et sur les cas en règle générale de combustion dite spontanée. Pour moi, l'effet de mèche, c'est une explication convaincante, mais qui n'a malheureusement pas été totalement prouvée encore pour les humains, on l'a fait sur un porc. Mais même le professeur Quatrom l'a reconnu, ça d'ailleurs, hein, qu'il n'y avait toujours pas d'explication globale pour la combustion humaine spontanée et l'effet de mèche de manière précise. Donc voilà, en l'absence d'études définitives sur le sujet, on ne peut pas classer totalement l'affaire. Ça reste une affaire qui est assez mystère, tout comme tous les cas de combustion spontanée qui existent. Mais pour moi, ils sont peut-être sûrement dus voilà, à des cas différents. Je pense pas qu'il y ait une explication globale pour tout. Je pense que l'effet de mèche explique certaines choses, mais que voilà, tous les cas sont différents et que c'est tout simplement un nombre de cas non élucidés qui s'expliquent par des causes différentes.
Eh ben très bien, eh ben je te propose qu'on laisse le dossier ouvert et qu'on y rajoute des petits éléments au cas où il y ait de nouvelles combustions spontanées. Les feux diaboliques de Céron. Nous sommes au mois d'août 1979, en plein été. Dans le département des Hautes-Pyrénées, le petit village de Céron n'est pourtant pas en vacances. Pire, il est en état d'alerte. La ferme des Lahors attire les médias de France et du monde entier. La cause de cette attention ? Des feux se déclarent un peu partout. Sur des vêtements, du mobilier, du linge. Personne n'est capable d'en déterminer la provenance, ce qui amènera de nombreux gens à suspecter une présence diabolique. Lundi 6 août 1979, un incendie démarre à la ferme des Lahors. Il s'agit d'une vieille ferme composée d'une vieille maison, une vieille bâtisse, d'un hangar et d'une grange. Dans la maison vivent Édouard, 56 ans, et sa femme Marie-Louise Lahore. Ils possèdent la ferme. Vivent sous le même toit Michel, une jeune fille de 18 ans qu'ils ont adoptée et hébergent depuis 10 ans, et Roger et Jean-Marc, leur fils. André, leur troisième fils, vit dans un village voisin. Un feu se déclare donc ce lundi 6 août 1979. La caserne de pompiers la plus proche se situe à Vic-en-Bigorre, à une dizaine de kilomètres de là. Mais quand ils arrivent, le feu est déjà éteint. Les Lahors ont pris le risque d'éteindre eux-mêmes l'incendie et cela se comprend. Ils sont agriculteurs et avaient peur, en plein été, que le feu ruine leur récolte. D'autant qu'un incendie, au printemps, avait déjà dévasté la grange. Il avait été allumé par un jeune placé là par la DAS. Il avait ensuite quitté la ferme. Dès le lendemain, mardi 7 août, d'autres feux démarrent. Ils sont immédiatement maîtrisés. Aucun d'eux n'avait vraiment pris. Les gendarmes sont quand même contactés, de peur que ces incendies soient criminels et ne blessent quelqu'un. Mais dès le lendemain, d'autres feux sont constatés par les policiers eux-mêmes. Cette fois, la situation est nettement plus inquiétante. une dizaine de feux sont répertoriés en une seule journée. Autour, c'est évidemment l'incompréhension qui prédomine. Le curé du village rend visite aux Lahors, qui sont de fervents catholiques, tandis que le maire du village met en place une garde de nuit avec l'aide de quelques volontaires. Mais rien n'y fait. Malgré toute la bonne volonté des civils, de la gendarmerie et du curé, une trentaine de feux éclatent le jeudi 9 août. Alors serait-ce un pyromane ? Cela semble peu probable, parce que la plupart des feux est assez contenu, et surtout, ils ont lieu à l'intérieur même du domicile des Lahors. Si un inconnu s'introduisait chez eux à de multiples reprises en une seule journée, il s'en serait sans doute rendu compte. Tout le monde s'organise. Les seaux d'eau passent de main en main dans une grande chaîne humaine pour tenter d'arrêter les flammes et sauver la ferme des Lahors. À force de travail et de coopération, les différents foyers sont progressivement éteints. Les volontaires se multiplient, les gendarmes attentifs montent la garde dehors, et le vendredi se passe dans le calme. Aucun feu n'est enregistré le samedi, et le maire de Céron se déclare soulagé. Il pense alors l'affaire derrière lui. Dimanche 12 août, Paris Sud-Ouest dimanche, et dans cette publication se trouve un article sur les feux en page 2, donc difficile à louper dans ce journal très lu à l'époque. À la suite de cet article, quelques curieux arrivent à Céron et, surprise, les feux reprennent. On repart à zéro, les gendarmes se relaient et tout le monde revient sur place pour surveiller, à nouveau, la ferme des Lahors. Dès lundi, les journaux locaux reprennent l'article de Sud-Ouest Dimanche et rajoutent les événements de la journée à leur récit. Les mystérieux feux de Céron deviennent un objet pour les médias en mal de sujet en ce milieu du mois d'août. On sait que ces histoires-là, oui voilà, sont souvent médiatisées durant l'été et montées en épingle par des journaux locaux, puisque il faut bien remplir les pages au moment où il ne se passe pas grand-chose.
C'est quelque chose qu'on connaît bien, mon cher Charles, puisque voilà, les auditeurs le savent peut-être, mais nous avons été tous les deux journalistes en presse locale l'été. Voilà, entre nos études, et on connaît bien la situation. C'est vrai que souvent l'actualité est un peu pauvre. Nous, on n'a pas assisté à ce genre de choses, de monter en épingle des affaires à ce point-là. En revanche, on puisait souvent dans des sujets dits sujets froids, des sujets plus anciens, ce qui nous a amené à faire des articles sur des sujets qu'on n'aurait jamais vus en règle générale dans l'année. Je crois que tu avais fait des articles de retraite, de type retraite spirituelle, ce genre de choses.
Oui, alors c'était pas, il n'était pas particulièrement en août celui-là, mais oui, ça, c'est le type de sujet qui paraît après un petit peu plus tard.
Moi, j'avais enquêté sur une dame blanche avec Charles, voilà, pour qui ce sujet s'était retrouvé en une. C'est vous dire si pour qu'un journal local mette un sujet sur une dame blanche en une, c'est compliqué le mois d'août. Donc voilà, soutien aux journalistes locaux.
L'affaire s'emballe. Des radiesthésistes se rendent sur place. Alors, les radiesthésistes, qu'est-ce que c'est, si j'ai bien compris ? C'est une forme de divination par les radiations, et c'est une sorte d'étude des effets que les corps ont les uns sur les autres vis-à-vis de ces radiations. Donc ça touche évidemment à des croyances et à du paranormal. Ces radiesthésistes sont accompagnés de parapsychologues, dont Yves Lignon, sur lequel on reviendra, de médiums, du curé du village, qui revient alors chez Lahors, mais cette fois avec un membre de l'abbaye de Tournai, un exorciste diocésain. L'auberge du village accueille les enquêteurs, sert de salle de conférence, elle a été transformée en véritable quartier général. Le mardi, la presse nationale s'empare du sujet et les curieux arrivent toujours plus nombreux à Céron. Sur une télévision régionale, un expert en ésotérisme recommande de brûler tout ce qui contient des plumes. Car, notamment dans le sud de la France, les boules de plumes sont parmi les choses qui sont les plus utilisées pour pratiquer des envoûtements. Les sorcières et les sorciers en placeraient dans les oreillers pour qu'elles ne soient pas détectées, évidemment, et pourraient ainsi continuer à jeter des mauvais sorts. Sur ces recommandations, les Lahors font bénir certaines de leurs affaires par un prêtre et brûlent édredons, oreillers, couvertures, tout ce qui contient des plumes est détruit par le feu. En parallèle, la presse internationale entre en jeu et l'hebdomadaire américain Newsweek relate en détail ce qu'ils nomment l'affaire de Céron. De leur côté, les enquêteurs poursuivent évidemment leurs recherches sans tomber dans l'irrationnel. Un juge d'instruction de Tarbes, accompagné de chimistes, débarque à Céron tandis que les Lahors reçoivent toujours plus de courriers d'anonymes. Ils constatent que les flammes démarrent sur du linge de maison, parfois dans des meubles, parfois alors que le linge est encore humide. Parfois, c'est sur un sac de sucre ou un sac de grains. Les enquêteurs remarquent également que l'objet ne s'embrase jamais entièrement d'un seul coup. Le feu a toujours comme origine un point précis et carbonise rapidement ce qui l'entoure. Le hasard du calendrier fait que le lendemain, c'est le 15 août. C'est le jour de l'Assomption, et avec évidemment toutes les processions traditionnelles que l'on connaît, notamment à Lourdes. Lourdes, qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de Céron. Vous voyez où je veux en venir? Mercredi 15 août 1979, des centaines de personnes qui avaient lu les journaux et regardé la télé, qui se rendaient à Lourdes, font un crochet par Céron pour voir ce qui commence à être surnommé la Maison du Diable. De leur côté, les feux se font plus rares. On n'en dénombre quasiment aucun entre le 14 et le 17 août. Ce qui n'empêche pas les curieux, évidemment, de se réunir en nombre le dimanche suivant. Le jeudi 16 août, Yves Lignon, le parapsychologue déjà intéressé par l'affaire, revient, accompagné de deux collaborateurs. Il fait passer une batterie de tests au Lahore et donne une conférence de presse dans la foulée. Le curé des Lahore laisse sa place au père Mercier, visiblement persuadé que les feux ont une origine diabolique. Il est photographié aspergeant de l'eau bénite et fera, à ce titre, la une de VSD. Une image forte qui contribue médiatiquement à l'image d'un combat du bien contre le mal. C'est le 18 et le 19 août que l'affaire connaît son pic de popularité. Ce week-end-là, des personnalités politiques, des médiums, des radiesthésistes, des lambdas, des enquêteurs, des gendarmes, tout le monde est à Céron. Le maire prend un arrêté pour interdire le stationnement dans la ville et l'enquête s'accélère. C'est à ce moment-là, au moment où l'affaire est à son plus haut, que des doutes commencent à apparaître. Un journaliste remarque que Roger et Michel sont systématiquement là quand les feux se déclarent. Yves Lignon, le spécialiste en paranormal, tend un piège en annonçant en conférence dans l'auberge du village que, je cite, « si les feux redémarrent alors que je pars du village, ce sera l'œuvre du diable. » À cette occasion, les deux jeunes s'éclipsent et sont remarqués par le journaliste. En parallèle, plusieurs feux reprennent dans la ferme des Lahors. De leur côté, les enquêteurs travaillent pendant que les curieux tentent de passer une tête, ces malheureuses victimes. Des interrogatoires sont menés les dimanches et lundis, et les feux n'apparaissent plus que par intermittence les jours suivants. On entre donc dans la dernière semaine de l'affaire. Le dimanche suivant, le 26, seul Jean-Marc est à la ferme. Édouard et Marie-Louise, donc les parents, passent la journée chez les parents de cette dernière, et Roger et Michel sont chez André, dans le village voisin. Le lundi 27 août, alors que Michel et Roger rentrent de chez André, une troupe de gendarmes débarque à la ferme et les arrête. Michel, Roger et Jean-Marc sont tous embarqués et entendus par la gendarmerie à Tarbes. Le lendemain, même chose pour les parents, Édouard et Marie-Louise sont à leur tour entendus par les gendarmes. Ce jour-là, après plusieurs heures d'interrogatoire, Michel et Roger passent aux aveux. C'est eux qui ont démarré tous ces feux. Roger aurait allumé, selon ses déclarations, 25 feux, tandis que elle, Michel, avoue en avoir allumé une trentaine. Ce qui est cependant loin de ce qui est enregistré, puisque ce sont au total 97 feux qui ont été allumés ces 20 derniers jours. Le juge les inculpe pour crime, ils sont transférés au palais de justice et vont en prison, tandis que l'interrogatoire d'Édouard, le patriarche, se poursuit. Roger et Michel sortent de détention provisoire respectivement le 24 novembre et le 6 décembre 1979. Évidemment, plus aucun feu ne s'est déclaré depuis. Leur procès se tiendra 5 ans plus tard, en mai 1984. Au tribunal correctionnel de Tarbes, ils écoperont d'une peine de prison avec sursis, ce qui conclut définitivement l'affaire des feux diaboliques de Céron.
J'avais une question. Ils sont arrêtés pour quel motif exactement?
Parce qu'ils sont passés aux aveux.
Ils font les feux sur leur propriété, en fait.
Oui, alors ils sont inculpés pour crime. ils sont inculpés pour crime, parce que le démarrer un feu, même sur sa propriété, alors qu'ils ont fait tourner la police en bourrique, et les habitants, et le maire, enfin l'intégralité du système judiciaire a été flouée par ces jeunes-là, qui en plus, même s'ils démarrent les feux chez eux, ça reste la ferme de leurs parents. Ça reste la ferme de leurs parents, et il y a une intention derrière qui est peut-être pas très très bienveillante. Puisque, alors déjà, pour cette histoire, que je vais maintenant... on va dire éclairé avec quelques ouvrages et quelques textes que j'ai lus. Déjà, merci à Léo de Facebook qui nous l'avait conseillé il y a quelques années de ça pour la saison 1 du Bureau des Mystères. Vous voyez comme quoi des fois on reprend certaines des recommandations et on les fait même si c'est des années plus tard. Le résultat de cette affaire, c'est quoi ? Alors déjà, résultat du procès, c'est qu'ils vont écoper de la prison avec sursis. Donc on voit qu'ils vont pas être, on va dire, incarcérés sur du long terme, ou voilà. Ils sont évidemment arrêtés, puisqu'ils sont passés aux aveux, et qu'il a bien fallu à un moment donné vérifier si c'était eux ou pas, et le fait que les feux se soient complètement arrêtés pendant plusieurs mois alors qu'ils étaient en détention, fait que, on peut difficilement imaginer que c'était quelqu'un d'autre. S'il y avait eu quelqu'un d'autre qui était à l'origine des départs des feux, soit il a été impressionné par les arrestations, et il a arrêté, soit il n'y avait personne d'autre, et dans ce cas-là, ce sont les deux jeunes, Roger et Michel, qui étaient à la cause de ces feux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont fait ça. En fait, on suspecte plusieurs choses, puisque même pendant leur procès, ils n'ont pas particulièrement donné de raison. Déjà, il y a un mystère qui demeure, c'est qu'ils sont passés à l'aveu pour une certaine quantité de feux, mais pas tous, pas tous les feux qui ont été répertoriés. Pour ce qui est des raisons, on suspecte une arnaque à l'assurance, puisque le premier feu, qui s'était déclaré bien en amont au printemps 1974, dans leur grange, avait rapporté à la famille 40 000 euros en lien avec l'assurance. Ça leur avait rapporté 40 000 euros, soit apparemment plus que ce qui était requis à cette époque pour remettre en état la grange. Donc on peut suspecter que cet événement les a motivés à lancer d'autres feux, et ces autres feux qui n'auraient pas pris ou qui auraient été trop nombreux, et bien après ils se seraient pris dans une sorte de jeu, les médias étant évidemment entrés dans la danse, ils se seraient pris dans une sorte de jeu et auraient voulu faire croire à une histoire paranormale et une histoire diabolique. Et il y a une intention derrière de faire croire qu'il y a quelque chose de diabolique, puisque Yves Lignon leur a tendu un piège en leur disant finalement, si au moment où je pars, si les feux reprennent, c'est que c'est l'œuvre du diable, et bien on voit que eux ont repris leur activité à ce moment-là. Donc il y a une intention de faire passer tout ça pour quelque chose de diabolique, et peut-être qu'ils ont été pris par l'engouement médiatique et qu'ils se sont pris à une sorte de jeu où ils voulaient continuer à peut-être attirer l'attention, ou peut-être autre chose, puisque se rajoute à ça la potentialité que Roger et Michel étaient en fait en couple. Ils étaient en couple. Et le fait que Michel n'était peut-être pas, du fait qu'elle était adoptée sur le testament des parents, aurait motivé les deux jeunes à peut-être faire baisser le prix de la ferme en faisant croire qu'elle était hantée, ou à motiver les parents à partir. Ils étaient donc... ils étaient amants. Il s'avère qu'ils étaient amants. Mais les deux amants ne vont pas donner d'explication particulière à leurs actes. On va devoir supputer, on va devoir deviner, ce qui va évidemment contribuer à entourer l'histoire de mystère, même si les articles vont cesser à partir du moment où les deux jeunes vont être arrêtés. Alors évidemment, ça trouve une résonance exceptionnelle dans les médias non seulement locaux, mais également nationaux et internationaux, à la fois... pour la presse écrite, la radio et la télévision, où on ne parle quasiment plus que de ça. L'affaire va durer 3 semaines, et c'est un bon récit médiatique. C'est un bon récit médiatique parce qu'il y a des rebondissements. Et en fait, c'est un feuilleton. C'est tout simplement feuilletonnant. C'est un récit auquel s'ajoutent des éléments dans lesquels il y a des protagonistes, certains sérieux, certains un peu plus ridicules. Et finalement, cette histoire, qui en plus ne fait pas de blessés, ni de morts, ni de victimes graves, eh bien du coup, elle a un côté presque bon enfant, presque inconséquent, qui fait que, à mon avis, beaucoup de médias se sont sentis légitimes à la raconter sans que ça ne fasse de tort à personne, quitte à la raconter sous un angle presque paranormal. Quand on a VSD qui fait la une de son magazine avec un prêtre qui jette de l'eau bénite sur un feu, alors certes, l'eau éteint le feu, mais le fait qu'elle soit bénite, à mon avis, physiquement, ne change pas grand-chose. Ça donne quand même une image forte, une image de bien contre le mal, qui est compréhensible par tous, et qui est, on va dire, le symbole d'un récit qui est en fait complètement médiagénique. C'est un récit qui est tout simplement médiagénique. médiagénique. Alors pour raconter cette histoire, et pour raconter tous ces faits dans les détails, je me suis appuyé sur un livre intitulé « Les feux diaboliques de Céron » de Sylvaine Guin-Lorinet et Jean-François Soulet, qui sont deux historiens de l'université de Toulouse et qui ont travaillé, qui sont, je crois, les seuls historiens à avoir vraiment travaillé sur cette histoire. Et ce qu'ils ont fait, c'est une étude à partir déjà du dossier judiciaire, mais aussi de toutes les coupures de presse qu'il y a eu à l'époque. Et d'ailleurs, dans l'introduction du bouquin, Jean-François Soulet explique qu'il a même été sur place, il a même été à la ferme des Lahors au moment où l'histoire avait lieu. Donc voilà, je me suis basé sur ce bouquin qui résume très très bien l'affaire, et eux notamment expliquent, on va dire, un contexte particulièrement favorable aux croyances, puisque c'est leur travail d'historien de recontextualiser ce genre d'affaires. Roger et Michel, on ne sait pas si au début il y avait, on va dire, la volonté de faire passer ça pour quelque chose de paranormal. C'est peut-être après coup que l'idée leur est venue. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là que, du coup, l'interprétation des médias aurait à la fois orienté l'action de Roger et Michel, mais aussi a été elle-même orientée par le contexte, puisque selon un autre historien, Robert Münchenblade, un historien français, il y a une continuité en France en ce qui concerne la croyance dans les phénomènes paranormaux depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que malgré les crises économiques ou sociales, ou malgré certains des événements qui pourraient changer les mentalités, on pourrait penser à mai 68 notamment, c'est un événement qui est invoqué dans le bouquin des historiens, il y a une grande continuité dans la croyance dans les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire que même les évolutions technologiques, finalement, ne changent pas grand-chose. Ce qui change, en revanche, c'est que ils font un parallèle avec la baisse, on va dire, de croyances religieuses et surtout de présence du diable. Il y a une baisse de la présence du diable dans les croyances, on va dire un peu religieuses et paranormales, qui va à ce moment-là revenir dans les années 60 et dans les années 70, qui pour la première fois connaît un rebond, on va dire, dans l'histoire en France, dans l'histoire du paranormal. Et en fait, il l'explique par plusieurs choses, et notamment un contexte culturel qui est largement favorable à ces apparitions diaboliques, comme on l'avait vu pour une histoire déjà précédente concernant des extraterrestres, où on voyait que c'était une époque, les années 80, où il y avait beaucoup de films, de téléfilms, d'émissions sur les extraterrestres, de croyances autour de ça liées à des évolutions scientifiques. Là, c'est plutôt le diable qui est présent dans les salles, puisque c'est en septembre, c'est seulement un mois après les faits, que sort L'Exorciste en France, qui était sorti un an plus tôt aux États-Unis. Il sort seulement quelques semaines après l'affaire. Et pour les historiens, donc auteurs du bouquin dont je me suis servi, ça canalise beaucoup de choses. Ça canalise beaucoup de choses qui ont notamment démarré dans les années 60 avec le film Rosemary's Baby, et beaucoup de choses qui vont perdurer sur une quinzaine, une vingtaine d'années, non seulement à l'international mais aussi au niveau national, puisqu'il y a dans les années 70, en 71 et 76, il y a deux téléfilms consacrés à Loudun, dont j'ai parlé la dernière fois dans le Bureau des Mystères. Il y a deux téléfilms consacrés à Loudun qui vont être diffusés en 71 et 76. Donc bref, il y a un terreau à l'engouement médiatique autour de ce type d'interprétation, autour de ce type de sujet, qui fait que, à mon avis, on peut largement classer l'affaire, déjà, premièrement, on peut largement la classer, puisqu'ils sont passés aux aveux, qu'ils ont été condamnés et que les faits ont été arrêtés après ça. Mais en plus, on a une explication de pourquoi avoir utilisé finalement l'imagerie du diable, et pourquoi eux auraient favorisé cette image-là, et pourquoi les médias l'ont utilisé comme, on va dire, cadre interprétatif.
Mais c'est ça. En fait, il y a un truc qui est aussi important pour expliquer l'emballement médiatique national, parce que bon, l'emballement médiatique régional se comprend facilement. C'est la grande information qui se passe dans la région, c'est feuilletonnant, c'est parfait pour l'été particulièrement. Mais même si je pense que n'importe quand dans l'année, cette histoire aurait aussi très bien marché en presse régionale, hein, mais particulièrement l'été, c'est vraiment le moment parfait pour sortir ça. Mais si ça a bien marché aussi dans le national, c'est parce que, oui, elle faisait écho à la vision qu'on a de l'horreur et du paranormal à ce moment-là, qui est très axée sur la religion et sur le diable, et aussi par un point assez simple finalement, c'est le lieu dans lequel ça se passe. Il y a une grande importance dans le grand récit des médias français, dans la presse nationale, de montrer une vision pittoresque des régions françaises. Ça a été notamment le cas sur l'affaire Grégory, où le fait que ça se passe sur le bord de la Vologne, ouais, ça a été très marquant. On avait vraiment un décor particulier qui va vraiment favoriser la création d'un grand récit. Donc voilà, c'était particulièrement le cas sur Gregory, mais je pense que ça a aussi été le cas sur ce cas-là, où vraiment on a des décors très, très particuliers, très photogéniques, qui permettent d'avoir ces photos comme on a retrouvé dans VSD, qui sont assez frappantes, quoi.
Oui, c'est vrai que ça correspond à une image de la France aussi qui se vend à l'international. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a fait la... ça a été dans le magazine Newsweek aux États-Unis et dans d'autres titres internationaux. C'est aussi que ça envoie une image de la France rurale qui se vend pas mal à l'international, je pense. Du coup, affaire classée ?
Affaire complètement classée. Avant de terminer ce numéro du Bureau des Mystères, on va vous faire quelques recommandations enflammées. Et je vais commencer par un documentaire que j'ai vu à la télévision, enfin que j'ai vu plutôt sur YouTube, qui traîne en quelques parties dans une qualité assez médiocre, mais bon, c'est plutôt sympa pour voir, parce que je crois qu'il n'est disponible nulle part ailleurs en fait. C'est Inside Spontaneous Human Combustion, donc c'est un documentaire qui date de 2006, qui avait été diffusé à l'époque sur Sky One, une chaîne britannique. Et cette émission, elle était présentée par Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, un homme à la carrière étonnante, je ne le connaissais pas du tout, mais qui est aussi pilote de ligne, visiblement. Il a lui-même piloté l'avion qui transporte Iron Maiden sur une de ses tournées.
Waouh, putain, ils ont pas peur. Voilà,
qu'il est instructeur aéronautique. Donc c'est un monsieur qui a plusieurs passions en dehors de la musique, notamment la science. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire ce documentaire. Et son introduction, dès le début du doc, donne le ton. Il regarde face caméra en mode vraiment bagarreur. Il fait « Je suis Bruce Dickinson, le leader d'Iron Maiden, et je ne crois pas aux théories paranormales. » Déjà, rien que ça, j'ai bien aimé.
Je l'aime bien.
Et juste après, voilà, déjà ça voilà, j'ai kiffé. Et juste après, il a dit « Je ne crois pas à la science-fiction. Je crois aux faits scientifiques. » Et donc voilà, toute l'idée de ce documentaire, c'est qu'il va aller chercher, avec des scientifiques du coup, des explications possibles au phénomène de combustion humaine spontanée. Alors il va en avoir plusieurs, voilà, notamment la piste de gaz sous-cutané qui pourrait être inflammable, d'électricité statique, enfin voilà, il va chercher plein de solutions possibles. C'est très... ça m'a fait penser un peu à Mythbusters, tu sais, l'émission où il y a deux mecs qui essayent de démonter des mythes et des légendes urbaines à propos de trucs vaguement scientifiques. Donc c'est très fun, et en même temps on apprend pas mal de trucs sur la chimie. Alors ça répond pas à toutes les questions, et d'ailleurs il fait le test final avec un cochon, et c'est pas 100% concluant, c'est ça la vidéo dont je parlais que j'ai vue, où ben, finalement ça finit par foutre le feu à toute la zone. Mais je crois qu'il me semble qu'il brûle pendant 2 heures de manière très localisée, et voilà, au bout d'un moment ça finit par brûler le reste. Mais donc voilà, le test n'est pas concluant dans le documentaire, mais en tout cas voilà, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce que ça se fait, et il montre plein d'autres exemples, notamment il te prouve comment un simple coup de jus qui est dû à l'électricité statique, ça peut causer un départ de flamme.
D'accord.
Ou comment les vapeurs d'une bombe aérosol, ça peut s'enflammer avec une infime étincelle, voilà. Et justement, comme je l'ai vu dans l'histoire que j'ai racontée, Ginette Kersmirzak avait l'habitude de s'asperger avec une bombe aérosol, et du coup, en voyant le documentaire, je me suis dit, bah oui, évidemment, ça, et voilà, il y a des connexions qui se font, quoi. Donc voilà, c'est un documentaire que j'ai trouvé plutôt marrant à regarder, qui est plutôt cool, donc qui est dispo en VO sur YouTube dans une qualité pas terrible. Mais voilà, si vous le cherchez, il est en 5 parties, c'est plutôt cool à regarder. Voilà, je vous conseille. Et puis Bruce Dickinson, très drôle comme monsieur.
D'accord.
Donc, c'était assez cool de le voir tenter des expériences du style « Ah oui, le méthane, ça s'enflamme, donc est-ce qu'on peut mourir à cause d'un P qui s'enflammerait ?»
Et la réponse à ça, c'est quoi?
La réponse, c'est potentiellement ouais.
Ah ouais.
Mais c'est compliqué. C'est...
oui, il faut beaucoup de conditions qui sont réunies, j'imagine.
Mais du coup, voilà, il fait un peu le rigolo, c'est-à-dire qu'il va s'amuser à. Enfin, voilà, pendant qu'il t'expliquait, il dit, je teste l'expérience sur moi-même et je suis en train de manger des quantités astronomiques de haricots.
Alors, ne faites pas ça chez vous.
Donc, oui, il dit, ne faites pas ça chez vous. Ouais, donc c'est assez marrant, voilà. C'est vraiment très fun et ça donne un bon aperçu des différentes explications qu'on peut avoir sur la combustion humaine spontanée. Voilà, moi, je me suis basé sur des travaux voilà, plus sérieux, mais je pense que ça, c'est un bon divertissement télévisé pour découvrir, voilà, pour commencer à découvrir le sujet. Et l'autre chose, ce que je voulais conseiller, c'était un film, cette fois, qui s'appelle Détective Dee, le mystère de la flamme fantôme, sorti en 2010. C'est un film hongkongais réalisé par Choi Ark, qui a fait, je crois, les Il était une fois en Chine, Time and Tide et La bataille de la montagne du tigre récemment. Alors, il est hyper connu, mais moi, je n'avais jamais vu un de ses films, je vais être honnête avec vous. Détective Dee, c'est une de ces sagas perso, en fait. On y suit les enquêtes du juge Dee Renji au 7e siècle, sous les dynasties chinoises Tang et Zhou. En fait, c'était une personnalité officielle, une vraie personnalité qui a existé, qui était pendant le règne de l'impératrice Wu Zetian, qui était la seule impératrice de Chine. qui est morte en 705. D'ailleurs, en passant, je vous conseille, il y a donc la bande dessinée culottée de Pénélope Bagieu qui a été adaptée donc en série animée, et il y a un épisode justement sur Wu Zetian que je vous conseille, et puis même je vous conseille même généralement les culottés de Pénélope Bagieu, c'est formidable. Donc Diren Jie, véritable personnage historique, qui est devenu en fait au fur et à mesure une espèce de Sherlock Holmes dans les romans policiers chinois. Et en 45, il y a un diplomate orientaliste néerlandais qui a traduit un de ses livres et qui a ensuite décidé d'en écrire plusieurs en l'appelant le juge Ti et non pas Di, je sais pas pourquoi. En tout cas voilà, le juge Ti est devenu un personnage de fiction inspiré d'un personnage réel. Et on le retrouve là, dans ce film, qui est le premier film de ce qui est actuellement une trilogie réalisée par Choi Ark. Le pitch, c'est qu'on est en 690, Wu Zetian s'apprête à monter sur le trône d'impératrice de Chine, mais il y a une série de meurtres qui compromettent un petit peu les cérémonies de son couronnement. Et ces meurtres sont un petit peu étranges, puisque ce sont des personnes qui s'enflamment d'un coup. Donc on rejoint le thème de la combustion spontanée, et pour résoudre ce mystère, ils vont faire sortir le juge Di, qui était donc en prison à ce moment-là, parce qu'il avait contesté le régime, et on le fait sortir pour résoudre l'enquête. C'est un film qui a tout de même 20 millions de budget, ce qui n'est pas rien. Un budget qui n'est pas passé dans les effets spéciaux très clairement, puisque voilà, ils sont catastrophiques, surtout pour un film de 2010, il y a des décors en CGI qui sont vraiment pas pardonnables, quoi. C'est vraiment catastrophique.
Et du coup ils sont passés où les 20 millions ?
Eh ben, ils sont passés dans les décors, dans les costumes, dans la chorégraphie des scènes d'action. Et vraiment, c'est un film qui est très généreux pour ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a une réalisation assez nerveuse. Les scènes de baston sont vraiment bien foutues. Un petit peu parodique, parfois un petit peu comique parfois, comme c'est le cas des fois dans le cinéma hongkongais. Et là, vraiment, on sent qu'il y a une volonté de faire un grand spectacle, en fait. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de décors différents. Bon, certains en CGI, du coup, c'est un peu raté. Mais vraiment, il y a un côté grand spectacle, quoi. Moi, j'aurais vraiment bien aimé, par exemple, le voir au cinéma pour vraiment en prendre plein la tronche. Visuellement avec le son et tout, mais malheureusement donc je l'ai vu sur mon écran d'ordinateur, mais c'est pas mal aussi. Et ce que j'aime bien dans l'univers du détective Di, que je connaissais pas vraiment avant, c'est que on a toujours des explications mi-scientifiques, mi-fantastiques, et en fait là ça va être le cas pour ce film là pour la combustion spontanée. Ils avancent une explication qui est à mi-chemin, donc je vous laisse la découvrir, hein, je vous laisserai regarder le film, mais en fait c'est assez typique de l'univers de détective Di, c'est qu'on a des explications fantastiques mais qui ne tiendraient pas du tout dans notre réalité. Je vais te donner un exemple. Un moment, ils se battent contre quelqu'un, ses bras s'enlèvent, et ses bras deviennent des robots qui se battent contre eux. Tu te dis, pourquoi ? Et en fait, donc la scène est dingue, et quelques séquences plus loin, on se rend compte qu'en fait, ces robots ne sont pas des robots qui volent, machin, enfin, mais en fait, des marionnettes de guerre qui sont tenues par des marionnettistes qui sont en haut. Au bout d'un moment, on voit les fils. En fait, c'est ça, en fait, que j'ai vu pas mal de fois dans Détective D. C'est que tu dis, c'est impossible, même avec des marionnettistes, de faire ça, mais ils essayent toujours de te donner une petite explication Scooby-Doo, quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est une explication Scooby-Doo.
Voilà, et puis même, tu vois, le Détective D, il a une arme, c'est une masse qu'on pourrait qualifier de masse magique, où en fait il fait tourner un truc, et son arme, donc c'est juste une masse, hein, trouve automatiquement le point faible des autres armes.
D'accord,
et du coup elle est capable de taper au bon endroit pour casser l'arme, tu vois. Donc c'est des petits trucs comme ça. Mais du coup, ce qui fait que même s'il y a ce côté cartoon Scooby-Doo qui est un peu marrant, la suspension consentie d'incrédulité n'est jamais mise à mal, en fait, parce que tout est cohérent dans l'univers. Et c'est un truc que j'aime bien. C'est que c'est des trucs que tu fais, non mais c'est pas possible, mais dans cet univers-là, j'y crois.
Oui, et puis c'est le but d'un film fantastique aussi.
Dont l'explication pour la combustion spontanée donc qu'on a dans ce film, que vous l'avez compris, je vous conseille chaudement.
Eh bien, très bien. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller un film aussi, puisque mon histoire parlait de nature, parlait de feu, avait des éléments bibliques. Vous voyez peut-être où je veux en venir pour les personnes qui l'ont vu. Je vais vous conseiller The Wicker Man, le dieu d'osier en français. Film qui en plus colle avec l'époque, puisqu'il est sorti en 1973. Si je dis pas de bêtises, donc qui colle un peu avec l'époque de l'affaire de Céron. C'est réalisé par Robin Hardy, mais surtout c'est écrit par Anthony Schaffer. Anthony Schaffer qui est surtout connu pour, je crois, avoir écrit des policiers, ou même avoir écrit non seulement des romans policiers, mais en plus des films policiers. Là, il va écrire ce qui du coup ressemble davantage à un film d'horreur, un film même de folk horror. C'est l'histoire d'un policier qu'on nous montre dès l'introduction comme étant croyant, pratiquant, catholique, à qui on va demander d'enquêter sur une petite île qui je crois se situe dans la Manche, sur une série de une disparition un petit peu mystérieuse. Alors notre policier, notre héros va débarquer sur l'île, et là peu à peu il va s'enfoncer dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Il va s'enfoncer, il va parler avec les habitants et les habitantes de l'île. Il va se rendre compte qu'on ne lui donne pas toutes les informations, qu'on lui ment. Tout le monde a l'air de mèche, il a l'air d'être presque l'objet d'un complot généralisé. Et c'est une des caractéristiques, notamment, de la folk horror, c'est de décentrer, on va dire, le point de vue et de placer souvent, la plupart du temps, quelqu'un qui est de religion catholique et de confession catholique et qui, du coup, ben, baigne, on va dire, dans ces valeurs-là, de le décentrer et de le placer dans un contexte qui est notamment empreint de croyances païennes. Et ça va être surtout, ça va être le pagan, en fait, qui va être le ressort principal de la folk horror, mais pas seulement, puisque c'est à la fois des caractéristiques visuelles. Pagan, c'est ben, forcément des divinités qui ont un look un peu différent, mais c'est aussi dans le récit, dans le discours, opérer ce décentrement, opérer ce pas de côté, on va dire, et montrer quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes et qui est perdu, qui va être dans l'incompréhension face à une situation qu'il ne comprend pas. Et du coup, je trouve le film particulièrement bien écrit, et c'est vrai que, ben, du coup, Tim Schafer, qui a l'habitude... Tim Schafer, je reprends ça, parce que c'est un créateur de jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Anthony Schafer, qui a l'habitude d'écrire des policiers, ben là, on se rend compte qu'il y a ce talent-là pour nous mettre dans l'angoisse, on va dire, de l'enquêteur. Donc c'est aussi le folk horror, pourquoi je le conseille maintenant, c'est aussi le folk horror un des principaux moteurs du renouveau des films d'horreur de ces dernières années. On en avait parlé, hein, on a fait un épisode où on parle de folk horror inspiré de faits réels pour Midsommar. C'est le cas aussi pour The Witch, c'est le cas aussi pour d'autres films. Donc c'est un film, un courant, le folk horror déjà, que je conseille en général, et The Wicker Man, le dieu d'osier en français, c'est un film que je conseille d'autant plus qu'il a été moteur, on va dire, pas au début de la vague, mais disons moteur de ce type de film qui me touche particulièrement et que j'aime beaucoup et que je trouve particulièrement malin.
On va bien préciser que c'est la version des années 70, le remake avec Nicolas Cage.
J'ai dit au début que c'était celui de 73, oui.
Faites attention à ne pas tomber par mégarde sur l'autre film.
Ah non, c'est difficile de se tromper de toute façon quand vous... si jamais vous tombez sur l'autre version, vous vous rendrez compte très rapidement que vous n'êtes pas sur la bonne. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, @BDMlePodcast, sur notre compte Facebook Charles et Mathias. Et bah, il nous reste à vous dire à bientôt, à la prochaine. Et d'ici là, ben, au lieu d'allumer le feu, peut-être éteignez-le.